Salut tout le monde, c'est Melvin et bienvenue sur Hand Papers, le podcast qui parle de handball féminin en tous ses aspects. Alors aujourd'hui, je reçois Atadou Sako qui fait la paire de gardienne de but avec Ivana Kapitanovic à Metz Handball depuis cet été. Et ensemble, en fait, on va parler de son parcours sportif parce que on voulait questionner en fait la notion de parcours classique et de parcours atypique. Parce qu'en fait, on se disait que puisqu'on est toutes différentes, on a forcément un parcours singulier. Et donc, il n'existe pas un seul chemin, en fait, pour faire du plus haut niveau. Et que, finalement, l'enjeu, ce n'est pas tant de se dire « Ah bah si je ne fais pas ça, je ne vais pas y arriver. » Mais plutôt, peut-être se concentrer sur l'instant présent et ce qu'on peut faire au quotidien, de manière à ce que notre avenir ressemble le plus possible à ce qu'on imagine. Donc j'espère que cet épisode vous plaira et puis je vous souhaite une belle écoute. Donc voilà, salut à Tadou, comment ça va ?
Salut, bonjour à toutes et à tous, ça va très bien et toi ?
Bah écoute, moi ça va. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu souhaites pour les personnes qui ne te connaissent pas ou même celles qui te connaissent voilà.
Alors, je suis Atadou Sako, j'ai 24 ans, je joue actuellement au club de Metz Handball. J'ai commencé à faire du haut niveau en 2010, okay. À Noisy-le-Grand, okay. Où j'y suis restée 5 ans. Ensuite, okay. Je me suis envolée vers le sud de la France pour aller à l'OGC Nice, ouais. Où j'y suis restée 4 ans. Ouais. Et voilà, maintenant j'ai atterri à Metz.
Ok, donc là, tu as fait un petit survol de ce qu'a été ton parcours, mais nous, on va revenir là, on va repartir, on va aller plus lentement. On va commencer avec le pôle espoir. Donc, tu étais à Châtenay-Malabry. Est-ce que tu peux nous repartir donc, avec ça comme point de départ et nous dire comment ça s'est passé, toi, déjà en tant que joueuse à ce moment-là ? Quelles étaient, toi, tes perspectives dans le sport de haut niveau ? Et surtout, quelle a été ta relation justement avec les entraîneurs, les personnes qui t'ont accompagnée justement vers le plus haut niveau ?
Okay. J'ai intégré le pôle sport de Châtenay-Malabry. Je devais avoir 17 ans.
Ouais.
17 ans, je crois. En parallèle, j'étais encore en moins de 18 championnat de France, dans mon petit village. Mm-hmm. C'est par la suite, après, que j'ai dû, changer de club. À Châtenay-Malabry, j'y suis restée 2 ans. Okay. Voilà, c'est vrai que j'ai pas eu le parcours que tout le monde. Soi-disant prédit, j'ai eu quelques difficultés, j'ai eu quelques moments où on ne s'est pas forcément intéressé à moi. Ouais. Mais comme je dis tout le temps, ce qui doit t'arriver, t'arrivera. Ce que tu devras vivre, tu le vivras. Après, à toi de voir ce que tu veux. Mmh. Je suis restée 2 ans à Châtenay-Malabry et à la fin de ces 2 années, il s'avère que je n'ai pas trouvé de centre de formation.
Ok, donc pourtant, Châtenay-Malabry, du coup, c'est en région parisienne.
Ouais.
Donc toi, tu avais plutôt en ligne de mire, on va dire, le centre de formation parisien, par exemple.
Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'étais très jeune, je suis quelqu'un qui est très très proche de ma famille. Mm. Donc envisager de partir très loin ma famille, c'était très compliqué à cette période-là. Donc je me suis dit, voilà, en sortant du pôle de Châtenay, pourquoi pas intégrer un centre de formation, notamment de préférence celui d'ici les Moulineaux.
Ouais.
Mais il s'avère qu'à la fin de mes 2 années, j'aurais pu en faire 3, mais j'estimais que les filles de notre génération, elles étaient toutes arrivées à la fin,
mm-hmm.
Et que c'était un nouveau cycle qui arrivait au pôle de Châtenay-Malabry avec des joueuses beaucoup plus jeunes,
ouais.
Et des objectifs qui n'allaient pas être les mêmes. Et moi, je pensais que c'était le moment de partir. Alors, okay. Au lieu de faire 3 ans, j'ai décidé de faire 2 ans et j'ai décidé que c'était le moment de partir. Et il s'avère que je n'ai pas trouvé de centre de formation.
Mmh.
Peut-être pas intéressée ou peut-être que je ne devais tout simplement pas aller en centre de formation. Et c'est là où Noisy-le-Grand a toqué à la porte.
Okay.
Voilà, en disant qu'ils étaient intéressés par moi en deuxième division. Je n'ai pas hésité. Hein, parce que pour moi, on ne doit pas forcer... On ne doit pas forcer le destin.
Ok.
Donc du coup, je suis partie à Noisy-le-Grand.
Donc attends, déjà, tu as fait que 2 ans de pôle.
Ouais.
Donc déjà là, tu montres que finalement, on n'est pas obligé de faire 3 ans de pôle si on sent que c'est pas forcément ce qui nous correspond.
Ouais.
Moi, c'est vrai que j'ai des amis aussi qui, par exemple, qui ont fait une seule année de pôle, qui sont juste rentrés en dernière année sur l'année du bac et pour qui ça s'est très bien passé ensuite. Et après,
Donc, tu n'as pas intégré un centre de formation, c'est-à-dire, on va dire, ce qu'on peut considérer comme le cursus classique, c'est-à-dire voilà, faire le pôle, les trucs, les sections nationales jeunes, puis un centre de formation. Et d'ailleurs, est-ce que tu as fait des sections nationales jeunes, toi, pendant ta
J'en ai pas fait énormément. J'ai dû en faire un ou deux. C'était un à Deauville pour la préparation du championnat du monde.
Ouais.
Je crois qu'on était en junior. Mmh. Et après, j'ai fait des stages nationaux, mais voilà, c'était des stages pour regrouper un peu toutes les choses qu'ils avaient vues dans l'horizon.
Okay.
Je voudrais revenir sur le fait que, voilà, on sait tous que dans le sport, dans la vie personnelle où qu'on travaille, y a beaucoup de personnes qui disent le parcours classique ou le parcours que tu, entre guillemets, devrais prendre,
ouais.
Mais j'aimerais dire que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, tout le monde n'a pas la même façon de voir les choses. Pour moi, ce qui est primordial, c'est de savoir ce que toi tu veux. Parce que pour moi, on peut très bien tous arriver au point B sans forcément avoir pris le même chemin.
Ouais, donc finalement, la notion même de parcours classique versus parcours atypique, peut-être que ça ne veut rien dire, en fait.
Ça ne veut rien dire.
Parce que tout le monde a un parcours singulier, en fait.
Tout le monde a un parcours singulier. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre aux générations qui vont suivre. C'est que ce n'est pas parce que tu ne passes pas par un endroit ou pas parce que tu n'as pas été vu à ce moment-là que tu ne pourras pas pratiquer ta passion à haut niveau.
Mm-hmm.
Voilà, j'ai croisé une petite la dernière fois quand je suis allée voir un match à Noisy, qui me disait « Ah oui, c'est compliqué, je ne sais pas si je vais pouvoir aller au pôle, etc. » Au centre de formation, pardon. Et je lui ai dit, donc je lui ai raconté un peu moi ce qui m'était arrivé très rapidement. Et je lui ai dit « Donc tu penses que si tu ne vas pas au centre de formation, tu ne vas pas pouvoir faire de handball de haut niveau ?» Elle m'a dit « Oui, ça risque d'être un peu compliqué. » J'ai dit « Bah, à partir de ce moment-là, si tu ne changes pas ta façon de penser, oui, tu n'y arriveras pas. » Parce que ce qui arrive aux autres n'est pas forcément bon pour toi.
Mmh.
Ou tout simplement, le parcours classique n'est peut-être pas fait pour toi.
Mmh.
Plein de personnes ont pris ce parcours-là, qui aujourd'hui ne joue pas forcément à haut niveau.
Ouais, c'est clair.
Y a des gens qui sont passés par la ligue, après ils ont fait le pôle, après le pôle ils sont dans le centre de formation, mais après le centre de formation, on ne voit plus personne.
Ouais.
donc, c'est ce que je dis, c'est que chacun sa route.
Ouais.
C'est chacun sa route et il ne faut pas se dire que c'est seule cette route-là me ramènera là où tout le monde veut être au final.
Mmh, mmh. Et d'ailleurs, donc, du coup, toi, tu étais à Noisy. Et comment est-ce que finalement tu t'es développée, on va dire, sans justement la structure centre de formation ?
Arrivée à Noisy-le-Grand, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui me prend énormément la tête. Parce que comme je vous ai dit au début, ce que tu vas devoir vivre, tu le vivras. Donc je ne suis pas là à forcer le destin ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas une notion que je partage, forcer les choses. Je pense que tout doit venir naturellement et c'est là où on vit les meilleures choses. Je suis arrivée à Noisy-le-Grand. Et je me suis dit, t'as pas pu intégrer le centre de formation, c'est pas la fin du monde.
Mm-hmm.
C'est pas la fin du monde. Tu vas te plaire à Noisy-le-Grand, tu vas découvrir ce que c'est que le haut niveau. Voilà, c'est le début du haut niveau, la deuxième division. Tu vas faire ce que t'as à faire, tu vas travailler, tu vas apprendre. Parce que apprendre, c'est la clé de tout. Tu vas apprendre, tu vas découvrir de nouvelles personnes. Tu vas devoir aussi changer peut-être certaines de tes habitudes. Moi j'étais toujours dans cette optique de découvrir, apprendre et voilà, donc du coup j'ai fait 5 ans à Noisy-le-Grand. C'est un club qui m'a énormément apporté. Je pense que c'est en grande partie grâce à eux qu'aujourd'hui j'en suis là. Mm-hmm. Parce que ça a été le fondement. Voilà, Noisy-le-Grand a vraiment été mon pilier, c'est vraiment eux qui ont construit ce que je suis aujourd'hui au niveau sportif. J'ai énormément appris, on est allé étape par étape. Je peux vous citer des noms. J'ai eu Mésulia Servier, Safouane Koudar, René Paul de Certaines qui m'ont énormément épaulé, qui m'ont énormément appris. Et j'ai eu des collègues aussi, incroyables à cette période-là. Et Voilà, j'ai appris et en fait, je ne me suis pas précipitée. Je ne me suis pas précipitée. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Ma quatrième année, il y avait un centre de formation qui m'avait contactée et en me disant, oui, bon, nous, on serait intéressés par toi. Est-ce que tu veux venir? Je leur ai dit, non, je ne suis pas intéressée. Donc, on m'a demandé pourquoi. Je leur ai dit, parce que je joue en deuxième division, je joue déjà une heure. Je ne vois pas l'intérêt de repartir en centre de formation pour peut-être le week-end jouer avec une nationale 1.
Ouais.
Sans avoir d'assurance de jouer en équipe 1. Sachant que c'est vrai que cette équipe 1 là, de ce club-là, elle jouait la Ligue des Champions, très bien placée à cette période-là. Mais je n'étais pas intéressée parce que déjà, je savais ce que je voulais. Je ne voulais pas sauter d'étape, ça c'était ma première des choses. Je ne veux pas sauter d'étape et je voulais que si je mettais les pieds quelque part, je serais en capacité d'assumer.
Ok, ouais, je vois ce que je veux dire.
Donc, du coup, j'ai refusé ce centre de formation parce que en fait, je devais passer encore un cap. C'était le cap mental. Je suis restée à 4 ans, ma quatrième année, je devais partir. On m'a dit non, Atadou, essaie de rester encore un an oisi parce que tu as un dernier cap à passer et c'est le cap mental.
Qu'est-ce que tu appelles le cap mental?
Bah, c'est toute cette force psychologique. C'est toute cette force psychologique, c'est l'intelligence que tu peux avoir dans le jeu, c'est la lecture, c'est la force mentale, c'est aussi cette force que tu peux dégager lors d'un match, tu vois, quand en assurance, quand tu prends le dessus sur une joueuse, quand tu dois prendre le dessus aussi tactiquement, techniquement et tout. C'est tout ça que je vais passer... cette dernière année-là.
Ouais, donc, et puis coup... même aussi peut-être la force, enfin l'endurance aussi, c'est-à-dire l'enchaînement des matchs, l'enchaînement du travail quotidien, passer d'un match à l'autre, etc. Et je me posais aussi la question, quand t'étais à Noisy, en fait, t'as parlé d'un truc qui était hyper intéressant, c'est qu'en fait, quand t'es en centre de formation, tu t'entraînes, t'as un entraîneur spécifique, comme toi finalement en Noisy en D2, mais parfois, tu peux ne pas jouer en centre de formation, c'est-à-dire que tu peux passer des années sur un banc avec la première division, en attendant de pouvoir te faire ta place. Alors moi, personnellement, ce n'était pas mon cas, parce que j'étais dans un collectif où j'ai pu jouer dès ma première année de centre de formation beaucoup. Mais c'est vrai que ça arrive à plein de joueuses, ça. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où parfois, peut-être que ça vaut le coup d'aller jouer dans la division inférieure, de manière à prendre son temps et du coup, d'être à un niveau de jeu qui correspond à un autre niveau de jeu, progresser à ce niveau-là pour pouvoir prétendre ensuite à la première division en étant armé, comme tu dis, à la fois physiquement, tactiquement et mentalement pour jouer en première division, quoi.
Oui, c'est clairement ça. Après, c'est toujours dans... Il faut savoir ce que tu veux, vraiment. Si... Ça, c'est la clé de toute chose. Si tu sais ce que tu veux, tu sauras où tu iras et tu sauras quoi faire à quel moment. Moi, je... À vrai dire, je ne me suis pas pris la tête, hein. Comme je t'ai dit, centre de formation, ils ne voulaient pas de moi.
Ouais.
Moi, avec plaisir, je suis allée à Noisy-le-Grand. Mais oui, après...
Et concrètement, qu'est-ce que tu voulais, toi? Tu savais concrètement...
Moi, ce que je voulais, je ne vais pas te mentir. Pour moi, je ne me disais pas, Tadou, il faut que tu t'entraînes bien, il faut que tu fasses de bons matchs parce que tu as envie d'aller jouer en première division. Moi, tout ce que je voulais, c'était apprendre et être le plus performant possible.
Ok.
Voilà. Parce que pour moi, il ne faut pas sauter d'étape. Après, parce que moi, je suis comme ça. Tu trouveras d'autres personnes qui décideront de faire autrement. Mais moi, c'est comme ça que j'ai construit le tout petit bout de carrière que j'ai, tu vois. Et oui, voilà. Après, on peut très bien passer par une division inférieure, comme tu as dit, se former, avoir du temps de jeu, prendre en maturité au niveau du jeu, au niveau mental, plutôt que moi je vois pas trop d'intérêt à absolument aller en centre de formation pour au final, excusez-moi, rester une heure sur le banc d'une équipe professionnelle sur laquelle tu ne peux pas te projeter, sur laquelle tu n'as aucune vision ni de visibilité. Voilà, si c'est juste pour dire oui, je suis au centre de formation de tel club, je suis une fille du centre de formation, moi, je ne vois pas l'intérêt et je ne vois pas ce qu'on peut y gagner à juste dire je viens d'un centre de formation.
Ouais.
Après, comme j'ai dit, chacun sa route.
Oui, c'est ça. Après, y a des parcours où il y a des filles qui pensent qu'il faut vraiment passer par là. Le centre de formation, ça reste parfois aussi une structure qui est très enrichissante et qui peut apporter beaucoup. Mais après, moi, c'est vrai que je n'ai pas cette expérience-là du centre de formation où tu ne joues pas. C'est-à-dire que moi, j'ai plus vécu le centre de formation comme. Des années où j'étais officiellement au centre de formation, mais en soi je jouais avec la première division, donc c'est vrai que j'ai pas vraiment connu moi ce monde-là où je sais pas trop ce que tu ressens vraiment, tu vois. Mmh. Peut-être qu'il faudrait que j'interviewe une fille là-dessus, parce que je pense que c'est très compliqué à gérer, finalement, des années, 2-3 ans, parfois, à pas jouer du tout, ou peut-être jouer avec la N1.
Le centre de formation, ça a des bons points aussi, dans le sens où c'est une structure où tu seras entouré de personnes qui vont gérer l'aspect scolaire, l'aspect sportif. Voilà, ce sera très bien encadré. C'est un très bon encadrement, le centre de formation. Et c'est peut-être aussi une façon de construire aussi sa carrière, dans le sens où tu joueras peut-être pas avec l'équipe 1, c'est ce qui te forgera aussi peut-être, tu vois.
Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est juste histoire de dire qu'il existe plusieurs chemins, en fait, et qu'il ne faut pas se cantonner à un seul truc et se dire, ok, si j'y arrive pas, c'est que finalement, je suis nulle, quoi. Non, c'est que c'est peut-être pas ton chemin, quoi.
Oui.
Tout simplement.
Ouais, c'est clair. Donc du coup, à Noisy-le-Grand, j'ai décidé de rester une année de plus, ce qui faisait ma cinquième année. Et donc du coup, on m'a dit, mais ça faut un RP à Tadou. Je pense qu'il est temps pour toi d'aller voir d'autres horizons, parce que il faut que tu ailles voir d'autres horizons. Tu ne peux pas te contenter, tu ne peux pas rester
dans la même structure de manière permanente.
Oui,
Est-ce que tu veux dire
ce que tu es bien dans ton confort.
Ouais. Okay. Moi, je sais que j'ai du mal un peu avec cette notion-là, mais enfin, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où finalement, quand tu restes dans quelque chose que tu connais, ou tu as des habitudes, ou tout le monde finalement a fini par te respecter, vu que tu t'es imposé au poste, parce que bon, on peut le dire aussi, tu as été nommée meilleure gardienne de deuxième division sur plusieurs saisons consécutives. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on te respecte dans ce que tu fais, et que tu as des habitudes, tu as une certaine aisance,
c'est concrètement aller se frotter au danger.
Ouais.
Et c'est là-bas aussi où j'ai appris cet aspect-là, essaye de sortir de ta zone de confort pour voir ce que tu es capable de faire.
Ouais.
Voilà. Donc du coup, je les ai écoutés, parce que, comme j'ai dit, je suis à la recherche de... Je veux apprendre, je veux découvrir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je sentais aussi qu'à Noisy... à Tadou, il est peut-être temps de partir. Voilà, va avoir d'autres horizons. Essaye de vivre un peu, quoi. Donc du coup, c'est là où l'OGC Nice a toqué la porte. Et ça a été un des seuls clubs cette saison-là à me contacter, un des seuls clubs de première division. Donc du coup, j'ai accepté. Mm-hmm. Voilà, je me suis dit, nouveau défi. Tu n'as rien à perdre en tous les cas.
Ouais.
En tous les cas, tu n'as rien à perdre. Tu vas en première division, tu vois comment ça se passe, tu découvres ce que c'est que le haut niveau, tu découvres le professionnalisme. Tu découvres ce que c'est que des joueuses de niveau international, quoi. Ouais. Donc, sors de ta zone de confort, fais-toi mal, parce que clairement, tu te fais mal, c'est pas la même façon de vivre, etc. Fais-toi mal et tu vois comment tu réagis. En sortant de là, tu pourras faire des conclusions. Et si tu accroches à ce monde-là, ce monde professionnel, ce monde qui demande énormément d'exigence, tant mieux. Si tu n'accroches pas, au moins tu auras testé et tu sais où tu vas.
Ouais.
Donc okay. Voilà.
Cool. Et concrètement, du coup, toi, dans ton travail quotidien, parce que quand même, il y a un niveau de différence entre la deuxième division et la première division, au quotidien, comment ça se traduit pour toi? C'est-à-dire en termes de travail physique, en termes de travail vidéo, tactique, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Sur quoi est-ce que tu as dû te concentrer principalement, tu vois, dans ce changement de niveau?
J'ai dû me concentrer sur l'exigence.
Ok.
Ça a vraiment été un cap très, très difficile. Après, vous savez, l'aspect physique, c'est sûr que l'aspect physique, tu prends une claque quand tu passes de deuxième division à première division. Et je vais vous faire rire, mais moi, j'étais la pro et je ne veux pas faire de prépa à Noisy-le-Grand. Hein? Donc, ma première prépa à Nice m'a fait énormément mal.
Ouais.
J'ai appris. J'ai appris et j'ai aussi... le point sur lequel j'ai dû vraiment m'appliquer et vraiment ouvrir grand mes oreilles à tous les conseils qui venaient à moi, c'était surtout sur l'exigence.
Ok.
Parce que, j'étais quelqu'un... j'y arrive pas, tant pis. Je suis pas très exigeante. J'aimais travailler, mais j'étais pas très exigeante. Et donc, du coup, arrivé à Nice... ça s'est senti un peu, quoi. Ça s'est senti que je venais d'un club amateur, que là, j'arrivais dans le professionnalisme et que j'avais aucune expérience. Voilà, je vous donne un exemple. Entraînement à 16h. J'arrive, il est 15h40. Je pars. L'entraînement à 18h, à 18h05, je suis déjà dans ma voiture. Je je prends pas le temps de m'étirer, je prends pas le temps de faire tout ce qu'il y a à faire après une séance d'handball. Mais ce sont des choses qui s'apprennent.
Mmh.
Oui, ce sont des choses qui s'apprennent. Et voilà, aujourd'hui, j'en rigole parce que je me dis que j'étais vraiment... que je ne connaissais vraiment pas tout ça. Hein. Ouais. Mais voilà, ce sont des choses qui s'apprennent. Et oui, moi, je suis contente d'avoir atterri à Nice à la sortie de Noisy-le-Grand.
Ok, trop cool. et du coup, j'aimerais parler avec toi aussi un peu de ta relation, du coup, entraîneur-entraîné. Est-ce que c'est quelque chose qui était, comment dire, est-ce que tes relations entraîneur-entraîné ont été saines dans ta construction personnelle, donc que ce soit à Noisy, au Pôle, ou quand t'es arrivée à Nice?
Alors, j'ai encore besoin de quelqu'un qui soit à mes côtés. Pas à mes côtés vraiment, mais quelqu'un qui comprenne ce que j'ai un peu dans la tête, dans ma tête de gardienne de but. Donc, à Noisy, j'avais René Paul de Certaines. Et il m'a énormément apporté, que ce soit dans les conseils, que ce soit dans les conseils sur tous les aspects, comme je vous ai dit, physique, mental, tout ça, même en dehors du handball.
Ouais.
Et c'est vrai que moi, je suis le genre de personne, de joueuse, qui a énormément besoin de communiquer et d'échanger. Parce que j'aime qu'on fasse en sorte de voir la même chose. Alors c'est vrai que si demain je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je suis capable de le dire. Mais on essaye de faire en sorte d'avoir des ressentis communs, des sensations communes et des façons de voir les choses communes aussi.
Ouais.
Donc du coup, j'étais beaucoup dans la discussion. Et pour moi, vraiment la base, la vraie, vraie base chez moi, c'est de travailler dans quelque chose de sain.
Ouais. Qu'est-ce que tu appelles sain?
Sain, c'est des personnes qui ont de bonnes intentions envers toi.
Ouais.
C'est vrai que quand tu rentres dans le professionnalisme, tu n'es plus dans un monde de bisounours. Mais je pense que c'est nécessaire, et pas que pour moi, mais pour tout le monde. Pour tous ces gens-là qui ont pour objectif de... Enfin, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils font. Pour moi, c'est très important d'être dans un environnement très sain. C'est dans ces environnements-là où tu peux développer tes meilleures qualités et donner le meilleur de toi-même. Parce que tu sais, quand tu n'es pas dans un environnement très sain, tu te perds sur certaines choses.
Je suis d'accord parce que c'est vrai que je te rejoins sur la notion de communication, sur le besoin d'avoir des sensations communes, de se dire ok, on est là pour jouer au handball ensemble, on est là pour se mettre d'accord sur la manière dont on veut bien jouer ensemble, et on n'est pas là pour se prendre la tête sur des espèces d'enjeux parallèles, d'argent, d'incapacité à se dire les choses, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui peut... Moi, personnellement, je sais que ça m'a beaucoup... c'est quelque chose qui m'a beaucoup... Enfin, que j'ai eu du mal à gérer dans mes premiers temps dans le monde professionnel, où je comprenais pas, en fait, tous les enjeux qui étaient liés à l'argent, tous les enjeux qui étaient liés à la gestion d'un club, en fait, au-delà même du fait de jouer au handball. Parce que c'est vrai que quand t'es à l'internat, en fait, t'es concentré que sur le handball. Tout est fait pour que tu n'aies que le handball et tes études à suivre. Et tout est beau, et tout le monde avance, tout le monde progresse ensemble, etc. Alors que c'est vrai que dans le monde professionnel, il y a tout de suite des enjeux qui sont liés à l'argent, à la concurrence aussi, parce que même si quand t'es plus jeune aussi, tu te bats pour un poste, mais quand t'es dans le monde professionnel, il y a des sous, et en plus, il y a de la concurrence. Et d'ailleurs, toi, comment c'est... Enfin, tes relations avec les autres gardiennes, est-ce que c'est quelque chose qui a été, comme tu dis, quelque chose de sain?
Bah, moi, je me suis toujours bien entendue avec, mes binômes. Que ce soit Noisy-le-Grand avec Angra Grosso, avec Simona Bistrichianou, que ce soit à Nice avec Maria Ciolic. J'essaye de conserver cette chose qui fait qu'on pourra travailler ensemble. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais c'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose qui s'entretient avec de la volonté.
Ouais.
Tu vois, quand tu es quelqu'un de bienveillant, c'est très important. Et je pense que, comme j'ai dit, c'est dans ces atmosphères-là, dans cet environnement-là, que tu peux développer le meilleur de toi-même. Alors, quel serait l'intérêt d'être malsain ou tout autre synonyme, tu vois.
Ouais, ouais.
Alors que c'est ton intérêt à toi, tu vois. C'est mon intérêt à moi et c'est mon intérêt à mon binôme aussi. C'est notre intérêt à nous deux de bien s'entendre. Tu vois, ouais. Après, la concurrence, il y a la concurrence partout.
Bien sûr, oui, oui. En fait,
c'est ce qu'on cherche, la concurrence,
ouais, ouais.
En soi. Mais il faut juste que, entre nous deux, ce soit quelque chose de sain. Moi, j'ai eu de la concurrence avec tous les binômes que j'ai eus. Mais c'est aussi ça qui nous fait... C'est aussi... C'est pour ça qu'on travaille, tu vois.
Bien sûr.
Pour apporter de la concurrence à l'autre. Parce qu'on fait un sport collectif, à la fois individuel. Tu vois, parce que tout le monde veut performer personnellement. On veut tous performer en équipe, mais tu veux aussi performer individuellement. Donc du coup, la concurrence, elle y sera. Après, vraiment avoir quelque chose de sain avec ton binôme, c'est vraiment quelque chose en plus.
Ouais.
C'est vraiment quelque chose en plus.
Non, mais je suis grave d'accord, parce que je pense que c'est... comme tu dis, en fait, c'est un des paradoxes du sport de haut niveau, en fait. C'est on est ensemble, mais en même temps, on est l'une contre l'autre. Mais finalement, ce qui prime, c'est qu'on gagne ensemble, quoi. Donc il faut réussir à trouver cette balance justement pour qu'on puisse avancer quotidiennement sans se mettre, j'ai envie de dire, des bâtons dans les roues, parce que c'est des choses qui existent, hein, oui. Dans le sport de haut niveau.
Clairement.
Et en acceptant finalement que oui, l'autre peut être meilleur, mais du coup moi je vais travailler de telle sorte à être meilleure qu'elle demain, et puis elle va travailler encore plus et on va que se tirer vers le haut, quoi.
Oui, c'est totalement ça. Et je vais essayer de faire mieux qu'elle.
Ouais.
Mais sans lui faire de mal. Je sais pas si tu vois le truc. Tu vois, je vais essayer de faire mieux qu'elle.
Ouais.
Mais c'est moi qui vais travailler. Contre moi. Pour moi. Mais moi et moi, c'est contre toi, tu vois.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
C'est ça, le truc. Donc, je pense que vraiment avoir quelque chose de sain, c'est vraiment primordial. Que ce soit dans un binôme ou, quelque chose, ou que ce soit dans une équipe tout entière. Ouais. Entre les 14 jeux, c'est vraiment... C'est vraiment un plus dans une équipe.
Ouais, je suis d'accord. Donc, donc là, on a parlé du coup des relations au sein d'une équipe et au sein d'un binôme de gardienne ou même à un autre poste. Mais j'aimerais revenir aussi sur ton parcours à l'international. Parce que du coup, en parallèle de ton statut de joueuse professionnelle de handball, tu évolues avec la sélection sénégalaise. Comment est-ce qu'on fait le choix entre deux sélections? Parce que du coup, tu es binationale. Donc, comment ça s'est passé?
Comme je vous avais dit, quand j'étais plus jeune, j'avais fait les stages de zone, stage national. J'avais fait un stage avec l'équipe de France, jeune ou junior, je ne sais plus. Je ne sais plus exactement. Et après ça, j'ai plus rien eu.
Ok.
Il n'y a plus rien qui est venu au niveau national. Et il s'avère qu'en 2016, il y a la sélection du Sénégal qui est venue toquer la porte. Moi, à la recherche d'aventure, à la recherche d'expérience encore une fois, pourquoi pas Tadou, en fait. Pourquoi pas aller tenter quelque chose qui t'apportera encore plus que ce que tu as déjà, que ce que le club t'apporte. Et donc, du coup, j'ai accepté. J'ai fait ma première compétition avec le Sénégal. C'était une compétition pour se qualifier à la CAN.
OK. Donc, la CAN, c'est...
Coupe d'Afrique des Nations.
Ouais.
La Coupe d'Afrique des Nations en 2017, je crois. Et franchement, c'était incroyable. C'était incroyable dans le sens où je ne m'attendais pas à vivre quelque chose... comme ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a plu et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je joue avec le Sénégal, quoi. Parce que j'aurais pu très bien y aller et ne pas aimer, tu vois.
Ouais. Mais qu'est-ce que tu... Du coup, pour que nous, on puisse imaginer un petit peu quelque chose comme ça, qu'est-ce que c'était,
tu vois ? En fait, c'est toute la bienveillance des personnes qui sont autour de toi. Déjà, tu joues dans... Tu vas en Afrique. Tu vois, tu repars un peu dans le continent, ton continent, tu vois.
Ouais.
Donc, tu repars un peu à la maison. Et en fait, tu vois, c'est toute cette bienveillance et tout le plaisir que tu procures aux gens, tu vois, en faisant du handball, en faisant du sport. Et ça, c'est... ça, vraiment, c'est... Tu peux pas le mesurer, vraiment. Et voir que des gens se déplacent et fassent tout pour venir nous supporter. Parce que ça s'est passé au Sénégal, ce stage de zone. Et les gens qui habitaient à 2 heures d'où on était, à Thiès, se déplacer pour voir, pour nous voir, nous, que personne connaissait, nous encourager, nous parler. Je vais essayer de vous expliquer. Hein. Mais non, vraiment, c'est incroyable. Ils sont ouverts, ils sont tous heureux, ils sont contents de nous voir. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère vraiment incroyable, chaleureuse. Ah, il faisait chaud dans la salle et c'est vraiment chaleureux aussi pour le coup. Mais non, c'est vraiment incroyable. Et ouais. C'est aussi, après, il y a le premier point aussi, c'est vraiment l'ambiance que nous, on a au sein de cette équipe-là. C'est comme je vous parlais tout à l'heure, cette histoire de bienveillance, de bon vivre avec les gens qui t'entourent. Pour moi, c'est primordial. Et vraiment, ce qui nous rattache toutes dans cette équipe nationale du Sénégal, c'est vraiment ça, la bienveillance de chacune, l'envie que chacune a, tu vois, en venant en sélection. Et ça, vraiment, c'est incroyable. Et je pense que ça, on ne peut pas trouver mieux, tu vois.
Ouais.
On ne peut pas trouver mieux que ça.
Ouais, c'est trop cool. Ouais. Franchement, ça donne trop envie ce que tu dis. Parce que moi, c'est vrai qu'au départ, dans le sport de niveau, quand je suis rentrée dans mon professionnel, il y avait des... Comme tu dis, je ne ressentais pas du tout cette bienveillance-là, tu vois. Et c'est vrai que je me suis dit, mais attends, mais c'est ça le haut niveau. Et je me disais, c'est terrible parce qu'en fait... Si tu as toujours rêvé de ça et que finalement tu rentres dans un environnement où quand tu viens t'entraîner, bah, tu as l'impression que finalement les gens n'ont rien à foutre les uns des autres, n'écoutent pas finalement les ressentis les uns des autres, se marchent un peu dessus. Enfin, c'est un peu moche quoi. Alors ouais. Qu'en fait, il suffit peut-être justement de formuler cette demande, ce besoin, pour t'apercevoir que finalement les gens ils sont pas forcément pas bienveillants, mais. Que peut-être ils savent pas trop comment faire, ou en tout cas il faut créer justement cet espace où on est là-dedans tous ensemble et on vit bien ensemble, et ça n'enlève rien à l'exigence, en fait ça n'enlève rien au travail, enfin ça n'empêche pas de faire des belles choses. Et d'ailleurs avec le Sénégal vous avez disputé un premier championnat du monde en décembre dernier.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience, parce que c'était quand même un truc hyper inattendu, enfin on était toutes là hyper contentes pour vous et tout, enfin franchement ça a été surprenant pour tout le monde, mais en même temps ça traduit un peu ce que tu disais, on peut très bien être bienveillant entre nous et travailler, quoi. Oui. Et être exigeant et exigeante.
Ouais, bah je vais revenir un peu sur ce que tu disais juste avant de parler du championnat du monde. Ça, c'est ton expérience à toi et à moi, pour des filles qui ont intégré des collectifs où pas tout était rose, mais où il y avait des personnes bienveillantes.
Ouais.
Autant on peut demander à quelqu'un d'autre son ressenti. Et peut-être que cette personne-là va nous dire, bah non, moi je suis tombée que dans des équipes où c'était très chaud. Dans le sens où, oui, bah, y avait des filles qui n'étaient pas forcément très ouvertes, elles ne voulaient pas forcément apporter à d'autres.
Ouais.
Que le plus important, c'était elle et elle seule, tu vois.
Ouais.
Après, c'est, comme j'ai dit, c'est chacun sa route, chacun traverse ce qu'il a à traverser, tu vois.
Ouais, et après, tu peux essayer de faire en sorte de choisir en fait l'environnement qui te va le mieux, quoi.
Clairement. Ouais. Et moi je pense que j'ai choisi l'environnement que je voulais. C'est pour ça que je fais toujours ce rapprochement entre cette équipe de Noisy et l'OGC Nice. C'est que vraiment l'état d'esprit, je peux pas vous dire quelle est l'équipe que j'ai plus kiffé entre Nice et Noisy. Parce que vraiment l'état d'esprit que je recherchais, c'est cet état d'esprit là que j'ai retrouvé dans ces deux équipes. Peut-être parce que j'ai pas testé autre chose aussi, mais ça me va pour le moment.
Ouais,
vraiment,
ouais.
Ça me va. Et donc, du coup, oui. On a joué un premier championnat du monde en décembre dernier.
Ouais.
Ouais, c'est vraiment... ça a vraiment été la surprise. Après, j'aimerais dire que c'est pour ça qu'on a travaillé si dur. C'est pour ça qu'on a travaillé si dur depuis... moi, personnellement, depuis 2016. Entre-temps, on a eu des changements d'entraîneurs. On a eu Fred Bougeant qui est arrivé sur notre route avec tout son staff. Et lui, ils ont fait un travail vraiment monstrueux sur 2 ans. Ils ont réussi à nous transformer. Et je pense que ce qu'on est aujourd'hui, c'est ce qu'on a cherché à être, tu vois. Quand je dis qu'il faut savoir où tu veux aller et ce que tu veux, c'est que nous, on savait qu'on pouvait aller taper un peu plus haut que jouer les Coupes d'Afrique des Nations. C'est une très belle compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la plus grande compétition d'Afrique. Mais on voulait aller taper plus haut parce qu'on est des filles ambitieuses et on savait où on allait. Si tu sais où tu vas, tu feras tout pour y aller. Vraiment. Et nous, dans cette équipe, on avait vraiment l'objectif de, bah, les filles, nous, moi, j'aimerais bien aller le plus loin possible avec vous. Pourquoi pas un championnat du monde? Ah, il s'avère bah, que Fred Bougeant est arrivé en sélection et lui aussi partage vraiment les mêmes envies que nous. C'est même lui, à un moment donné, je pense qu'il a dû nous, bien nous pousser, tu vois, pour nous faire prendre conscience de certaines choses qui fait qu'aujourd'hui, bah, on a réussi à se qualifier à un championnat du monde, le disputer, faire un très bon championnat du monde. Mmh. Voilà, on est arrivé 17e sur 24.
Ouais.
On a réussi à gagner des matchs pour une équipe qui n'avait jamais, enfin le Sénégal n'avait jamais disputé le championnat du monde. Vraiment, ça aussi, c'est une fierté. Et la fierté, elle est encore plus grande quand tu arrives à remporter des matchs.
Ouais.
Tu vois, on avait une poule très, très, très compliquée. On avait le Monténégro, on avait la Roumanie, on avait l'Espagne,
ouais.
Et il y avait l'Argentine.
Mmh.
Donc, ce sont des choses à vivre et il faut les vivre à 100%. Il faut les vivre à 100%. Et c'est vraiment, ce championnat du monde-là, ça a été une de mes meilleures compétitions pour le moment.
Ouais.
Et vraiment, ça a été incroyable.
Ouais. Bah, franchement, c'est hyper agréable d'entendre ça parce que ça traduit vraiment en fait, les bienfaits de l'écoute et de la bienveillance cumulée au travail. Et franchement, je trouve ça trop cool. Et donc, sur cette compétition aussi, on peut ajouter que tu as fini meilleure gardienne de la première phase. En quoi est-ce que... Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui compte pour toi? Est-ce que ça t'anime, en fait, au quotidien, ce genre de petite récompense individuelle? Et en quoi ça t'aide à avancer tous les jours?
Bah, c'est... bien sûr que ça compte. Parce que pouvoir performer dans une compétition aussi grande que celle-ci... ça fait énormément plaisir et ça donne encore plus envie de faire plus.
Ouais.
Voilà, tu fais déjà beaucoup et tu as envie d'en faire encore plus. Et vraiment, c'est ce qui m'a boosté sur le reste de cette compétition. Pour réussir à faire cette performance, dans ce début de compétition, j'ai dû m'appuyer déjà sur de très bonnes coéquipières.
Ouais.
Parce que vraiment, elles ont été incroyables en défense, l'état d'esprit qu'on y a mis, etc. Et ça m'a fait énormément plaisir de voir que ce que je pense, bah c'est vrai, de voir que si tu travailles, tu performeras.
Mm-hmm.
Et oui, j'estime avoir fait une performance au début du championnat du monde. Et ouais, j'en suis contente.
Ouais. trop cool. Et donc là, on va parler rapidement de ton passage, de ton arrivée à Metz. Comment ça s'est passé, ça aussi? Est-ce que c'était un objectif? Et ouais, comment s'est passée la prise de contact? Est-ce que c'est toi qui as contacté le club? Est-ce que c'est le club qui t'a contacté? Voilà.
Je suis toujours dans la même démarche que celle dans laquelle j'étais en 2014, en 2014-2015. À Tadou, il faut que tu passes un cap.
Okay.
Je suis toujours dans cette démarche-là et je ne sortirai pas de ça parce que c'est vraiment la façon dont je vois les choses et c'est la façon dont je veux construire ma carrière. À Tadou, je pense que tu as fait ce que tu avais à faire à l'OGC Nice. Tu as énormément évolué encore une fois. Tu as pris ce que tu avais à prendre et maintenant, il faut que tu passes un cap.
Mmh.
Il faut que tu sortes de ta zone de confort, encore une fois. Il faut que tu ailles te mettre en danger. Il faut que tu ailles tester si tu peux faire encore plus. Donc voilà, là, on rentre dans ce challenge-là de... Va te mettre en danger pour voir si tu y arriveras. Okay. Et vraiment, c'est vraiment dans cette optique-là où... Voilà, j'ai été élue meilleure gardienne il y a deux saisons. Voilà. Mmh. On peut dire il y a deux saisons.
Ouais.
Là aussi... J'ai senti aussi que j'avais progressé. Voilà.
Ouais.
On continue à progresser.
Donc, meilleure gardienne de LFH, hein, enfin,
oui.
du championnat, ouais.
Et donc, du coup, Tadou, il faut que tu passes le cap. Il faut que tu ailles te mettre en danger. Metz m'a contactée en septembre.
Ok.
Je pense.
Metz voulait travailler avec toi.
Oui, Metz.
Ouais, parce que si c'est septembre, ouais.
Metz m'a contactée très tôt.
Ouais.
Mais ça m'a aussi prouvé le fait que ils m'ont choisi, tu vois.
Mm-hmm.
Je sais pas comment dire, mais vraiment, ils m'ont fait comprendre à Tadou, nous te voulons, parce que nous voulons travailler avec toi. nous pensons qu'on peut t'apporter, comme tu peux nous apporter aussi. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et bah, dès lors, je me suis sentie sécurisée, tu vois. Dans le sens où on s'intéresse à toi très tôt, c'est-à-dire que, ces personnes-là te connaissent, tu vois.
Ouais.
Et après, c'est mes 100 balles. Hein.
Oui, c'est vrai, oui.
C'est mes 100 balles. Donc du coup, j'ai pas hésité une seconde. J'ai pas hésité une seconde. Je leur ai dit, moi, je serais ravie de travailler avec vous, bien sûr. Parce que je suis dans la démarche d'apprendre, de progresser et d'évoluer. Donc voilà, ça rentre totalement dans ce que je suis et dans ma façon de penser, tu vois.
Ouais. Et c'est vrai que c'est important ce que tu dis sur le fait que déjà un club te fasse comprendre qu'il a envie de travailler avec toi. On peut le dire sans honte, en fait, ça flatte l'ego et c'est important. Je pense quand on est athlète de haut niveau, c'est important de se sentir qu'on veut travailler avec nous. Et d'une certaine manière, comme tu dis, ça donne aussi envie de leur rendre, c'est-à-dire de toi aussi d'aller vraiment apporter quelque chose à la structure. Et je pense que c'est important justement de rappeler qu'il n'y a pas de mal finalement à dire à une joueuse qu'on veut travailler avec elle. Et puis inversement, à remercier un club et je sais pas, enfin, mettre en avant son palmarès, reconnaître la qualité de ce que propose la structure aussi, parce que je pense que ça participe justement à créer une relation saine, comme ce que tu mentionnais plus tôt.
Ouais, mais non, mais il n'y a vraiment aucun mal, parce que c'est pour ça qu'on joue. On joue pour se montrer, on joue pour que les gens s'intéressent à nous, et pour que les plus grands s'intéressent à nous. Donc bien sûr qu'il n'y a aucun mal. Et moi, j'ai été très très contente quand j'ai eu le premier contact avec MES, parce que on a eu des échanges très 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 sincères, très très faciles. Ouais. Franchement, ça s'est très bien passé. Moi, je vous dis, je suis très très contente d'être à Metz, parce que je le disais aussi à certaines de mes copines que en fait, à chaque fois que tu passes un cap, tu as des objectifs. Oui. Et vraiment, moi, ce que je suis contente d'être là, parce que vraiment mon objectif, c'est de passer un vrai cap, tu vois, la confirmation. C'est là, je suis vraiment dans la recherche de confirmation dans une structure qui va pouvoir m'apporter, c'est-à-dire me faire travailler très très sérieusement, vraiment à l'image du vrai club, d'un des meilleurs clubs européens, tu vois, travailler comme il le faut avec des personnes très très compétentes. Des collègues très compétentes. Quand je dis des collègues, c'est des coéquipières. Ouais. Un très bon entraîneur avec une structure très très bien organisée. Et je suis contente parce que, en fait, c'est en cohérence avec ce que je recherche, tu vois. Toi, tout est cohérent. Je suis dans une structure qui va pouvoir me faire travailler, qui va pouvoir m'apporter, qui va pouvoir me faire connaître d'autres compétitions, la Ligue des Champions. Ce que c'est que jouer le haut tableau de LFH, tu vois. Et voilà, je suis très contente d'être là.
Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur le fait qu'en fait, à chaque fois tu parles de passer un cap, et donc finalement tu as tes objectifs qui viennent les uns après les autres. Enfin, jusqu'ici en tout cas, tu n'as pas dit je veux gagner ça. C'est-à-dire que avant tout ça, il y a des étapes, quoi. Et que. Ce qui compte finalement, c'est de vivre pleinement là où t'es aujourd'hui.
Ça, c'est vraiment la clé.
Ouais.
Il faut profiter de l'instant présent. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois.
Ouais.
Il faut profiter de l'instant présent parce que si tu penses trop loin, déjà, tu n'es pas sûr d'y arriver. Et en plus de ça, tu ne profites pas. Tu ne profites pas de ton moment présent. Ça crée une pression en plus. On est tous ambitieux, mais il ne faut pas être trop, trop ambitieux de là à s'y perdre, tu vois. Et moi, pour moi, vis l'instant présent. C'est comme quand tu apprends à marcher, tu mets un pas avant l'autre. Tu mets un pied devant l'autre pour pouvoir arriver là-bas. Et vraiment, si demain j'avais des conseils à donner, tu vois, à des jeunes joueuses qui veulent vraiment atterrir au plus haut niveau, je leur dirais, ce que vous êtes en train de vivre, vivez-le. Apprenez. Soyez ambitieux. Mais ne vous perdez pas. Vraiment. ne vous perdez pas, parce que si vous commencez à vous perdre, vous allez vous mélanger les pinceaux et ça va...
Ça va faire mal. Là.
Ouais, ça va faire mal. Vraiment, il n'y a rien de mieux que vivre l'instant présent. Après, si tu vois que tu progresses, que t'es bien dans ce que tu fais, tu vois, les objectifs arriveront au fur et à mesure. Mais tu ne peux pas te mettre... Tu ne peux pas. Je dis tu ne peux pas, je vais l'imposer à personne. Mais te mettre une pression trop, trop importante, parce que vraiment, ton objectif, c'est dans 2 ans, atterrir dans le meilleur club européen et être meilleur gardien de Ligue des Champions. Mmh. Elle est trop grosse, cette pression.
Ouais.
Elle est énorme. Tu peux pas. Tu peux pas. Alors, profite de l'instant présent. Au fur et à mesure de ce que tu fais, de ce que tu apprends, ben là, tu te fixes des objectifs. Et ouais. Moi, c'est ma façon de penser. Voilà.
Ok. Bah, merci à toi. Franchement, c'était trop beau, trop cool. Pour finir, est-ce que tu peux... je vais te poser la question signature du podcast. Tout simplement, est-ce que tu as des suggestions, des sujets ou des idées de choses que je pourrais traiter pour un prochain épisode? Là, c'était génial parce que du coup, tu as donné une série de conseils qui étaient, je trouve, très beaux et inspirants pour les futurs, les plus jeunes, ou même pour moi, ou même celles qui sont en pleine carrière. Mais voilà, est-ce que tu as des idées de sujets que je pourrais traiter dans le podcast?
Ouais, moi, j'ai un sujet sur lequel tu pourrais te pencher. C'est plutôt après sur des jeunes et leur demander pourquoi elles font ça. Pourquoi elles font du handball? Pourquoi elles sont investies dedans, tu vois?
Ouais.
Parce que faire, c'est très bien. Mais ne pas savoir pourquoi, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à faire quelque chose si tu ne sais pas pourquoi tu le fais.
Ouais.
Tu
ouais,
vois
ouais,
ouais. Et ne pas savoir pourquoi tu fais quelque chose, il n'y a pas trop de sens. Il n'y a pas trop de sens, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de...
Ouais, bon, je suis d'accord.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je suis carrément... Ouais, en plus, c'est un truc auquel je pensais, parce que je me disais... comme ce que je disais dans la présentation de l'épisode, tu vois, le côté... quand, par exemple, il y a quelqu'un qui va t'assigner et te dire « Ouais, toi, tu vas faire ça et tout. » Des fois, tu sais, t'as des joueuses qui se disent « Ah non, mais je vais leur montrer qu'ils avaient tort et tout. » Et au final, OK, tu leur montres, mais en fait, tu leur montres qu'ils avaient tort, mais une fois que tu l'as fait, après,
c'est quoi,
du coup, tu joues plus.
Pour toi, ouais.
Tu vois?
Vraiment, pourquoi?
Ouais.
Est-ce que tu fais pour toi, tu vois?
Ouais, c'est ça. Ouais,
parce
ouais.
que tu peux me dire, oui, je fais du handball parce que j'aime bien. Mais ça va au-delà d'aimer ce que tu fais. C'est vraiment une passion.
Ouais, ouais, je suis d'accord.
Parce que c'est un certain nombre d'années que tu vas passer à faire, à t'entraîner. En fait, c'est plein de choses que tu vas devoir faire. Et vraiment, si tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, ça va être très difficile.
Ouais.
C'est pour ça que dans toutes les choses, hein, que tu sois sportif de haut niveau, que tu veuilles même travailler dans une entreprise ou être chef de bureau, il faut savoir pourquoi tu veux faire ça.
Ouais.
Tu vois? Et moi, cette question vraiment, pourquoi je fais ça, c'est vraiment très très important. Après, chacun aura ses arguments, etc. Mais pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire, ou pourquoi tu as envie d'atterrir là ou d'être cette personne-là, c'est vraiment très important. Et je pense que c'est la première question qu'on devrait se poser quand on veut s'engager dans quelque chose.
Trop, trop cool. Franchement, j'adore cette réponse de fin. Et je pense que c'est vraiment une belle question d'ouverture. Et peut-être que je ferai justement un épisode avec des filles qui viennent de rentrer en centre de formation, ou qui sont sur le point de rentrer en centre de formation, ou même qui sont en Pôle Espoir, parce que je pense que ça peut être très intéressant de voir ce qui motive en fait les jeunes joueuses à faire ça. Et ça peut même être, tu vois, un outil pour comprendre un peu les raisons pour lesquelles souvent t'as des joueuses qui arrêtent en fait après le centre de formation, qui partent peut-être parce qu'au fond elles faisaient pas ça pour elles, quoi. Donc franchement, merci. Moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu en fait, à vous auditeurs et auditrices. N'hésitez pas à me faire des retours en me laissant vos messages donc, ou par mail sur handpaperspodcast@gmail.com, ou sur Encore, vous pouvez laisser des commentaires audio. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour le nouvel épisode.